Père Philippe, théologie mystique, le sacerdoce du Christ, le 28 novembre 86, Rimont.
croyez qu'il boit. C'est bien Jésus, source de vie nouvelle. Or, peut-on être source de vie?
Et donc, on reconnaît, c'est le prophète, ou serait-il le prophète?
homme n'a parlé comme ça. Et ce sont les gardes qui disent ça. Des braves gens. Service commandé. Mais en service commandé, ils ont quand même une capacité de juger les choses avec beaucoup de bon sens. Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. Les pharisiens lui répondirent donc. Vous seriez vous aussi laissé égarer, vous aussi. Oui, l'a priori du pharisien. Le nom a priori des gardiens, des gardes, et l'a priori des gardes. C'est tellement significatif, c'est tout le temps comme ça. Quand vous en avez un a priori, vous ne recevez que ce qui est conforme à ce que vous voulez entendre. Les notes de cours. Que ce qui est conforme à ce que vous voulez entendre. Et dès que ça nous déloge un peu, non, on laisse tomber. Et on fait ça juste qu'avec la parole de Dieu. A priori par la philosophie. Hein. C'est très important, parce que ça purifie même notre regard, point de vue de la foi. D'accepter des choses qu'on ne comprend pas. D'accepter ce qui nous déloge. Certaines personnes n'acceptent que ce qui est conforme à leur sensibilité, conforme à leur affectivité. Mesure de Dieu n'est pas la nôtre. C'est ça la difficulté qu'on a, il faut bien le reconnaître. C'est très important ce que dit Jean quand il rapporte tous les bruits comme ça, de coulisses. On voit très bien les bruits de coulisses. Et on voit très bien que l'on se reconnaît très bien. Quand on pose la question de pourquoi n'avez-vous pas amené, jamais homme n'a parlé comme ça, cet homme. C'est encore sous le coup de la parole de Jésus. Et c'est vrai, la présence de Jésus devait être quelque chose d'extraordinaire. Mais ça déloge. Est-ce que ce qui est en conformité avec notre affectivité, est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est par le monde où, dans votre affectivité, vous n'arrivez pas à discerner ce qui est de l'image de Dieu et ce qui est conséquence du péché. Le discernement, c'est difficile. C'est pas commun d'affaire. Les pharisiens leur répondirent donc, vous seriez-vous laissé égarer vous aussi? Parmi les chefs, en est-il un seul qui ait cru en lui? Ou parmi les pharisiens? Mais cette racaille qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Et on divise le monde en deux, les gens intelligents et les gens bêtes. C'est comme ça qu'on fait la division et on croit que c'est Dieu, la racaille. Les maudits, les imbéciles, il n'y a qu'eux qui se laissent prendre. C'est-à-dire tous les gens intelligents, quoi, tous les théologiens, tous les gens intelligents, tous les pharisiens, les chefs, qui se partagent. C'est très très beau, ça. Vous voyez le réaliste de Jean, ça vous ne l'avez pas dans les synoptiques. Vous n'avez pas ce flux, le reflux. Hein. C'est un marin, Jean, alors il voit le flux et le reflux. Très bien ça, on voit très bien comment il se fait une division, une séparation petit à petit, progressivement. Et pour relever dans l'évangile de Saint Jean, c'est pas directement ce qui nous intéresse, c'est sûr, mais c'est quand même quelque chose qui nous intéresse, la difficulté qu'on a de découvrir le sacerdoce de Jésus. Je crois que c'est encore la même chose dans notre monde d'aujourd'hui. La difficulté qu'on a de découvrir le sacerdoce de Jésus. Est-ce qu'on a une conception a priori du sacerdoce? Sacerdoce diocésain. Mais est-ce que le sacerdoce du Christ, c'est sacerdoce diocésain? Ou est-ce que le sacerdoce du Christ, c'est le sacerdoce? Fonds sacerdotalis. Le sacerdoce monastique. Est-ce que le sacerdoce du Christ, c'est le sacerdoce monastique? Vous voyez, c'est important. On s'arrête à des modalités particulières. Et ces modalités particulières deviennent la mesure du sacerdoce. Non. Le Christ nous déloge, nous oblige d'aller beaucoup plus loin que nous. Et c'est vrai, quand saint Thomas dit, hein, il le dit dans son traité de la Somme sur le sacerdoce du Christ, que c'est le sacerdoce. Vous ne pouvez pas penser à un prêtre plus pouvez pas penser à un sauveur plus sauveur que Jésus sauveur. C'est ça qui est très beau. Mais c'est difficile à saisir, parce que ça nous oblige de n'avoir aucun a priori par rapport à nos expériences. Et c'est ça qui nous déloge et qui nous oblige de contempler le sacerdoce de Jésus. Mais cette racaille, on voit bien la colère qui est sous main, qui ne connaît pas la loi. Donc on est racaille quand on ne connaît pas la loi. Ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était venu vers Jésus précédemment, leur dit, à Nicodème, c'est un notable, c'est un chef. Alors montre ça tout de suite pour montrer les erreurs de ces pharisiens, les a priori de ces pharisiens. Vous voyez comme Jean tout de suite note ça. Nicodème, l'un d'entre eux, notre loi condamne-t-elle un homme sans que d'abord on l'entende et que l'on connaisse ce qu'il fait? C'est très important cette petite remarque de Nicodème. Que c'est pas un imbécile, c'est un docteur en Israël, Nicodème. C'est sans doute le plus intelligent de tous. Et Nicodème fait cette remarque. Après que les autres ont dit ça, alors parmi les intelligents, il y en a quand même un qui pose une question. Notre loi condamne-t-elle un homme sans que d'abord on l'entende et que l'on connaisse ce qu'il fait? Il répondit et lui dit, toi aussi, serais-tu de Galilée? Scrute, et tu verras que de Galilée, il ne se lève pas de prophète. Alors toujours, vous voyez le positivisme dans toute sa force. Alors on fait des erreurs énormes. Jésus vient de Bethléem. Il s'est caché. C'est ça qui est extraordinaire, ça fait... Alors pourquoi la sagesse de Dieu a-t-elle fait tout ça? C'est cette conduite extraordinaire de Dieu qui fait que Bethléem est rayée de la vie de Jésus. À tel point, il y a quelques années, quand j'allais à Jérusalem, je me souviens, le patriarche latin me disait, c'est terrible parce qu'il y a des exégètes, et il parlait l'école de Saint-Étienne, qui disent « Oh, non, on ne sait pas du tout si Jésus est né à Bethléem. On n'en sait rien, historiquement, on n'en sait rien. » Alors le patriarche, lui, voyait ça, ce point de vue des pèlerinages. Alors vous comprenez, il n'y aura plus de pèlerinage à Bethléem.
Pour le croyant, il n'y a pas de problème. C'est évident.
crois ce qu'il dit dans Saint-Luc. Je crois ce qu'il dit dans Saint-Matthieu. Il est né à Bethléem, mais ça servait de foi. Et vous voyez bien cette petite lutte, c'est très significatif au point de vue herméneutique. Si je fais la mentalité même du temps du Christ, même du temps du Christ, 30 ans après, on ne savait plus que Jésus était né de Bethléem. Marie le savait. Ils auraient dû dire, demandons à sa mère. Elle doit savoir. A priori. De Nazareth, de Galilée. Il ne se lève pas de prophète. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon. Voyez la manière dont Dieu obscurcit. Alors pourquoi Dieu fait-il ça? Il faut se demander, on constate, mais pourquoi Dieu fait-il ça? Toujours, ces permissions de Dieu ont une raison, une finalité. Pourquoi Dieu permet-il ça? Sans doute pour que nous comprenions mieux que c'est dans la foi toute pure. Je crois. Ça aide quand il y a un témoignage historique. C'est évident que ça aide. Mais il faut cette foi toute pure. Et puis, Dieu permet cela pour que on puisse, j'allais dire, plus facilement condamner Jésus. Du Christ, puisqu'il est venu pour témoigner de la vérité. amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu, ils lui disent: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. On regarde Jésus comme celui qui doit faire le discernement de ce qui est conforme à la loi, de ce qui est contre la loi, et de ce qui implique l'application immédiate de la loi. Ça fait regarder Jésus comme juge. Est-ce qu'être juge regarde le point de vue du prêtre? J'essaie de comprendre. Dans la conception du sacerdoce du Christ, oui. Puisque le prêtre va pardonner. Pour pardonner, il faut un discernement. Autrement, il n'y a pas de pardon. Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu? Donc l'application de la loi, on pourrait dire, ça relève des juges avant tout. Est-ce que ça relevait des prêtres? Dans l'ordre liturgique, oui. Mais dans l'ordre de la condamnation. Toi, que dis-tu? Donc l'opposition des points de départ entre le Christ et puis la tradition. Et c'est cela pour le mettre à l'épreuve. L'homme ne peut pas le faire. C'est en se condamner lui-même. c'est important. Dans la lumière même de ce geste de Jésus, nous pouvons comprendre tout de suite que Jésus, heureusement pour nous, n'applique jamais rigoureusement la loi. Jésus regarde en premier Dieu la miséricorde. Donc la personne et pas l'action séparée de la personne. Ça va très loin, ça. Vous voyez, une philosophie qui ne veut plus regarder que les actions, qui ne veut plus regarder que la lettre, et qu'en opposition avec ce que la philosophie de Jésus. Il y a une certaine sagesse, là, hein. Une sagesse divine, une sagesse d'une grandeur extraordinaire. Les scribes et les pharisiens ne regardaient que l'acte prise en flagrant délit d'adultère. Un tel acte réclame la lapidation. Mon ami, loin la personne, on ne la regarde pas. C'est l'application rigoureuse de la loi. C'est la justice dans toute sa rigueur. Nouvelle que réclame Jésus en dépassant la justice pas nécessairement le tout. Je dis j'ai bien fait ce que je devais faire. Quel que vous me reprochez, j'ai fait exactement. Ah oui, il y a quelque chose de plus, c'est la responsabilité à l'égard du tout. Ça, c'est la personne qui aime le tout. Et c'est ça la miséricorde. C'est de rétablir la personne dans son lien avec le tout. Il y a là quelque chose de très très fort pour faire comprendre ce que c'est que sacerdoce de Jésus. Un sacerdoce de miséricorde, un sacerdoce qui nous engage. Et quand on parle de l'engagement des laïcs aujourd'hui, c'est ça. On est responsable de la communauté chrétienne. On est responsable de l'Église. Une fois qu'on a compris ça, on ne peut plus condamner en disant les uns sont actifs et les autres sont passifs. Les uns sont les chefs et les autres sont... Ce sont les moins chefs qui doivent obéir. On ne peut pas faire ça.